oubliez ce faciès rouge cramoisi. Vous avez fini de courir pour vous réfugier chez vous avant que ne tombe l'heure fatidique du couvre-feu. Alors, vous êtes un peu essoufflé, mais sain et sauf. Le virus qui ne vous a pas touché en journée peut maintenant profiter des ruelles obscures pour s'exprimer à plein poumon. Vous avez ôté votre masque, lavé vos mains, pris un verre dans votre placard dans lequel vous avez peut-être glissé une tranche de citron et un glaçon. Il faut bien ça. Le bar en bas de chez vous est fermé, tout comme le cinéma, tout comme le théâtre. Vous n'êtes pas dans une fiction de Frédéric Fajardi. Vous n'êtes pas dans un film de Spike Lee. Vous êtes en France et vous êtes bien à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM. Vos habituels complices de presque toujours sont avec vous. Linda, Luc et votre serviteur zélé Julien. Bonjour les amis.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Ne vous en faites pas, vous allez malheureusement vous habituer à ces « bonjours » enregistrés, seule dérogation possible à l'expression de la culture sur les ondes. C'est l'heure de Calibre 58, une émission de bien mauvais genre et qui vous sort du noir. Maintenant, générique maestro.
Sur la cour de les motets, les parandes, les inépis, les carmagnoles, même les mêmes. jeunesse à la créole. Même les chansons de football, ras-le-bol, rock'n'roll, ras-le-bol, rock'n'roll, ras-le-bol, rock'n'roll.
Alors, je ne sais pas si vous préférez les Sex Pistols à Brahms, mais vous écoutiez Ras-le-bol Rock'n'Roll, une chanson assurément pas pour les gogols ni les guignols. Nous continuons à arpenter les Polaroid Rock mis en CD par le festival Avray Les Encres Noires. Nous étions retournés en 2006, et pour cette occasion, le groupe s'est arrogé, et on le comprend, le droit de s'appeler Collectif Polaroid Rock. 7 musiciens complices, parmi lesquels Dominique Delahaye, pour une interprétation haute en couleur d'un texte de l'inénarrable Jean-Bernard Pouy. Quant à nous, pour cette 3e émission de la saison, nous allons à la rencontre de l'écrivain portugais José Rodrigues dos Santos, qui vient de sortir un nouveau thriller aux éditions Hervé Chopin. Le roman s'intitule Immortel, et nous demanderons à l'auteur, francophile convaincu, de nous en dire un peu plus sur l'intrigue et sur son travail d'auteur. Pour sa chronique On n'achève pas les classiques, l'espiègle Luc ressort de sa bibliothèque Tueur de flics de Frédéric H. Fajardi, qui faisait partie de cette nouvelle vague d'auteurs qui ont mis en avant de manière naturelle le néo-polar. Le bouquin a aujourd'hui 45 ans et pas une ride. Pour sa rubrique Sueur froide, étrangement, Linda nous causera de cinéma et de films à revoir sans hésitation, avec dans le désordre Spike Lee, Joseph Mankiewicz, Sidney Lumet et Raoul Peck. Et mon petit doigt cinématographique me dit qu'il y a un certain lien entre tous les films de ces réalisateurs. Saurez-vous le débusquer ? Nous débattrons également de films noirs avec Plus dur sera la chute, dernier film de Humphrey Bogart. Ce long métrage est une adaptation par Mark Robson d'un roman de Butch Ulberg. Adaptation réussie ? Vous le saurez d'ici une grosse vingtaine de minutes. Pour l'heure, on écoute les propos de José Rodrigues dos Santos, de passage à Paris à l'occasion de la sortie d'Immortel, 10e aventure de son personnage récurrent Thomas Norona, un historien qui a dû faire ses classes chez les Castors Juniors et qui se retrouve souvent au milieu d'événements qui ont ou pourraient avoir des répercussions mondiales. Mais commençons par le commencement. Qui êtes-vous, monsieur José Rodrigues dos Santos ?
Bon, je suis un homme du monde, je suis un pied noir portugais, si vous voulez. Et je suis né au temps de l'Empire portugais, alors j'ai beaucoup voyagé dans cet empire, mais avec beaucoup de contacts avec d'autres pays et d'autres idées, car je voyageais beaucoup. Et dans ce sens, je suis devenu un homme du monde. Et évidemment, toute cette expérience de ma jeunesse et enfance, elle est présente dans mes bouquins, dans le sens où mon héros récurrent, Thomas Noronha, il voyage aussi beaucoup, comme moi je le faisais et je le fais encore dans ma vie.
C'est quoi pour vous un personnage de roman ?
Je dirais, comme principe général, c'est pas bon quand l'auteur il n'a pas le contrôle du personnage. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas, conçu le personnage très bien. Et quand j'écris une histoire, je sais, du moment que je commence à écrire, je sais déjà comment l'histoire va finir. Alors le personnage, il va faire ce que je veux. C'est pas un bon signal quand il commence à faire des choses que l'auteur n'a pas envisagées. Par contre, c'est vrai que quand j'écris les aventures de Thomas, à chaque aventure, je découvre quelque chose sur lui où il devient plus foqué dans mon imagination. Je le comprends mieux, le personnage, parce que c'est un travail en construction. J'ai conçu Thomas pour une aventure spécifique et puis je lui ai repris et à chaque fois je trouve des choses qui sont intéressantes d'ajouter à son caractère. Et dans ce sens, le personnage devient plus riche. Et dans ce sens aussi, il est un petit peu hors contrôle. Mais il ne peut pas être trop hors contrôle, car je suis l'auteur.
Qu'est-ce que vous racontez dans vos romans ?
Bon, je suis journaliste, mais je ne fais pas le journalisme d'investigation. Par contre, je suis académicien. J'ai enseigné à l'Université de Lisbonne pendant 25 ans. Et là, oui, la recherche est très importante. Alors, la recherche qu'on trouve dans mes romans, c'est plutôt mon côté académique. Tandis que la façon comment je raconte les histoires, c'est mon côté journalistique. Les journalistes, ils essayent d'écrire d'une façon claire, d'une façon telle que quand les gens lisent une page, ils comprennent immédiatement. Si les gens ne comprennent pas, c'est pas la faute du lecteur, c'est la faute de l'auteur. Et ça, c'est un raisonnement de journaliste. Deuxième chose, pour les journalistes, il est très important d'écrire d'une façon intéressante. Et ça aussi, j'ai apporté pour le roman. D'une façon telle que les gens sont en train de lire l'histoire et c'est un page turn, ça veut dire qu'elles ont envie de changer la page pour savoir la suite. Et ça, c'est une technique aussi journalistique que j'ai amenée pour les bouquins. Oui, on raconte une histoire, c'est en effet ce qui se passe, parce que le monde, il est tout à fait plein d'histoires, histoires vraies, sûrement, mais des histoires. Et le rôle du journaliste et de l'écrivain, c'est de les raconter.
Vous pouvez nous parler un peu de ce Thomas Noronha ?
Oh, c'est difficile à dire. Bon, je ne suis pas un auteur introspectif. Je suis un auteur qui veut raconter des choses, veut comprendre le monde. Et mes personnages sont au service de cette envie de montrer le monde, montrer l'essence des choses. Alors, je dirais que Thomas, si on veut comparer avec la littérature universelle, il y a quelque chose de Indiana Jones, il y a quelque chose de Tintin qui est présent, mais par contre, il n'est pas Tintin, il n'est pas Indiana Jones. Il est un académicien, il y a beaucoup de défauts, il tombe en tentation souvent, il est vraiment un homme, et dans un certain sens, il est un anti-héros. Et dans ce sens, il n'est pas Indiana Jones, il n'est pas Tintin, qui sont des vrais héros. Et alors, bon, c'est ça, c'est ainsi que je peux définir Thomas.
Quelle est la thématique d'Immortel ?
Parce que justement, c'est l'enjeu de l'intelligence artificielle. Hein. L'intelligence artificielle, c'est une technologie. Et les technologies, en elles-mêmes, elles ne sont pas bonnes ou mauvaises. Elles sont. Et c'est le travail, et c'est ce que nous faisons. Comment nous utilisons cette technologie qui va faire la différence? C'est comme un pistolet. Je peux avoir un pistolet pour tuer un animal et manger, et ainsi je n'aurai pas faim. Ou je peux utiliser le pistolet pour faire un cambriolage, tuer quelqu'un. Et alors, c'est un bon usage ou un mauvais usage, ça dépend des personnes. Mais la technologie, elle est là. Elle est neutre dans ce sens. Et c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Mais la technologie, elle change tout. Quand on a introduit les armes de feu, par exemple, bon, tout a changé dans la société humaine. Et la même chose se passe ici. Et c'est un petit peu comme la boîte de Pandora. La boîte, Pandora est sortie, elle ne retournera jamais. Et alors, les choses sont hors contrôle. Et le message du bouquin, c'est justement celui-là. On peut aimer, on peut n'aimer pas ce qui va se passer. L'humanité, comme nous la connaissons, elle est en train de finir. Elle est vraiment en train de finir. Nous sommes devant les dernières générations. On ne remarque pas ça parce qu'on pense, bon, il y a 8 milliards de personnes dans le monde, alors c'est pas possible, mais en effet, elle est en train de finir. Et une nouvelle humanité va apparaître en ce lieu. Et bon, on aime, on n'aime pas, c'est la réalité. Mais on peut dire, oui, c'est mauvais, dans le sens que, bon, si notre espèce, elle va finir, bon, c'est pas joli, hein. Mais les australopithèques, on pouvait le dire, mais vous allez finir, alors c'est fini. Mais un autre lieu, l'Homo sapiens va apparaître, vous comprenez? Alors, ce que je dis dans le roman, Homo sapiens, il va finir. Mais quelque chose différent est en train de naître. Et c'est positif, c'est négatif. Bon, c'est pas à moi de juger. Je remarque, j'observe que c'est la tendance qui nous amène ces nouvelles technologies.
Vous écoutez quoi en ce moment comme musique ?
Bon, il y a une musique portugaise que j'aime beaucoup d'une band qui s'appelle Madre Deus. Et la musique, c'est Age ou Pio Vert. Vous irez aimer ça.
vous êtes bien sur Radio G 101.5 FM. C'est Calibre 58, l'émission qui vous sort du noir. On délaisse José Rodríguez dos Santos et son roman Immortel, qui nous alerte sur les potentiels dangers de l'intelligence artificielle et de la génétique, non sans vous le recommander chaleureusement, ainsi que les 9 volets précédents. Il est publié chez Hervé Chopin et c'est passionnant. Nous retrouvons maintenant Linda et sa rubrique Sueur froide. Quelque chose me dit qu'elle a passé un certain temps devant des écrans et qu'elle n'en est pas vraiment ressortie indemne.
Alors ce soir, je vous parle du film de Spike Lee, Black Ku-Klux Klan, sorti il y a 2 ans. Le pitch. Alors nous sommes au tout début des années 70. La police de Colorado Springs encourage les personnes noires à s'enrôler. Donc, notre héros se présente et est embauché. C'est le premier policier noir. Il va se retrouver à infiltrer le Ku Klux Klan avec un collègue juif. Oui, oui, vous avez bien entendu. Un noir et un juif infiltrent le Ku Klux Klan. Fallait oser. Spike Lee ne se prive pas. Sa vente d'osage, d'humour, d'action, de messages politiques. C'est très intelligent. Il élargit le public. Il touche. Fort, avec un glissement dans des images d'archives récentes d'une violence inouïe, dont les auteurs ont été disculpés par un certain président à la mèche orange, encore en place aujourd'hui. Et on n'est pas sorti. Je trouve ce film d'autant plus fort maintenant par sa mesure. Je n'avais pas mesuré, justement, le niveau de violence que les Noirs enduraient encore à l'époque où se déroule le film. En plein dans les droits civiques, une guerre sous-jacente permanente. Je vous rappelle, début des années 70, c'est juste après les assassinats de Kennedy John, puis Kennedy Robert, Malcolm X, Martin Luther King, pour ne citer que les plus connus, ouais, c'est un canard sec. Je vous dis, je suis frappée par la mesure de Spike Lee, cette force de ne pas être haineux. Alors que moi, qui ne suis ni noire, ni américaine, et qui donc, depuis mon Maine-et-Loire, ne le vis pas au quotidien, eh bien, rien que de m'être plongée dans les bouquins et films dont je vais vous parler, là, tout de suite, maintenant, je suis retournée. Oui, par glissement, du coup, j'ai eu envie de regarder I Am Not Your Negro, film de Raoul Peck, de 2019, film à partir du livre éponyme de James Baldwin. Oui, ben, je n'arrête pas de croiser sa route en ce moment. C'est le retour de Baldwin aux États-Unis après avoir vécu à Paris pour témoigner devant la société américaine, faire son devoir pour ses amis assassinés, dont Malcolm X et Martin Luther King. On ne peut pas changer tout ce qu'on affronte, mais rien ne peut changer tant qu'on ne l'affronte pas. On y voit notamment des extraits d'une émission retranscrite dans un livre traduit en français et disponible, livre de 1963, « Nous, les Nègres ». Ce sont des entretiens de Kenneth B. Clark avec donc James Baldwin, Malcolm X, puis Martin Luther King. Concis, éclairant. Quelques bribes en vrac. La résistance non violente n'est pas absence de résistance. Il n'est pas question d'être l'oncle Tom, figure du noir docile caricatural. Quand King parle d'aimer son oppresseur, il ne parle pas d'affect, hein, on n'est pas chez les bisounours. Il fait référence aux 3 mots grecs qui désignent l'amour. Eros, l'amour romantique, esthétique, philéo, affection, amitié, amour réciproque, et agapé, compréhension. Et c'est de ça qu'il parle quand il parle d'aimer son oppresseur. Ça rejoint la vision de James Baldwin, épouvanté par la capacité d'une partie de la population à en martyriser une autre, sans s'émouvoir. La capacité d'une majorité de la population à nier cette réalité. Avoir absorbé cette barbarie depuis si longtemps qu'elle ne pourrait plus y faire face et faire montre de compréhension, justement, d'humanité, simplement. Baldwin parle de monstres moraux. Alors pourquoi ce titre « I'm not your Negro »« Je ne suis pas votre nègre » ? Eh bien, je ne suis pas le fantasme que vous projetez sur moi. Je sais qui je suis, je ne vais pas m'épuiser à me justifier. C'est vous qui devez vous demander pourquoi la figure du nègre vous est nécessaire. Vous, c'est les blancs, mais comme métaphore du pouvoir brutal. Baldwin n'était pas raciste. Il pense que c'est peut-être grâce à sa première prof blanche qui lui a fait découvrir la littérature, le théâtre. Malcolm X l'a été, raciste. L'était-il encore à sa mort? Moins sûr. Sa ligne de pensée et celle de Martin Luther King s'étaient singulièrement rapprochées, mais on en parle très peu. Âme sensible, je vous préviens, faites ce que vous voulez. On y voit des gens fracassés à terre, sous le choc des matraques, des hommes lynchés, pendus aux arbres comme des fruits étranges. Vous savez, c'est Strange Fruits, chanté par Billie Holiday. Ouais, je sais, hein. Ça plombe, hein. Ça plombe bien, hein. Bon, si vous voulez vous achever, ou si vous avez du temps, parce que ça dure 3 heures, le documentaire King de Montgomery à Memphis de, tenez-vous bien, Sidney Lumet et Joseph Mankiewicz, tout de même, hein, 1970. C'est saisissant par imprégnation. Je n'avais jamais vu de séquence d'archives aussi longue. On est plongé dans le boycott des bus de Montgomery en 55. On suit la progression des marches non violentes, les avancées des droits civiques difficiles à faire respecter. On s'imprègne du style oratoire de Martin Luther King. Dans son discours, la veille de son assassinat, il exhorte le peuple à continuer sa révolution, même s'il n'est plus avec lui. Il a gravi le sommet de la montagne, il a vu l'horizon, ça lui suffit. Il n'a plus peur de mourir, les larmes aux yeux, la gorge nouée. Lui, hein, j'avoue moi aussi. Alors, il dit avoir eu la révélation de sa mort prochaine lors d'une marche où il avait fallu 4000 policiers pour tenter de les protéger contre des milliers de suprémacistes blancs, donc, arborant une farandole de croix gammée. Insultes, crachats, coups, jets de pierres et de cocktails molotov, tirs en mode sniper perché dans les arbres. De la haine à l'état brut. C'est tellement facile à attiser la haine. Hein, Manu ? Répéter, par exemple, islam, islamisme, islamiste, plus de 40 fois. En mélangeant tout bien, 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 là. Sarkozy sort de ce corps. Tout en disant qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Et sous couvert de lutter contre le séparatisme. Bon, allez, je m'arrête là, parce que là, en plus, je m'énerve. Je vous reconseille donc d'aller voir ces films Black Ku Klux Klan Man de Spike Lee, King de Montgomery à Memphis de Sidney Lumet et Joseph Mankiewicz, et I Am Not Your Negro de Raoul Peck.
Vous entendez cette petite musique qui nous titille les oreilles ? Elle annonce que nous n'en avons pas encore fini avec le film noir. Au passage, merci Linda. Une chronique très aérienne qui décape et qui donne beaucoup d'envies très différentes. En parlant de ça, je vous préviens, ça va boxer sévère sous l'œil pas très flegmatique de Humphrey Bogart. Nous parlons maintenant de Plus dur sera la chute, The Harder They Fall, un long métrage de Mark Robson qui ressort chez Sidonis dans la collection Film Noir. Mais je laisse la parole à Luc, sous peine d'en dire trop après un petit extrait sonore.
Changed his mind.
He what?
Yeah, wait. What?
Boys, outside.
What's the trouble, Chief?
I won't go in the tank.
You made a deal. You can't Welsh on it now. You want to get us both crippled?
Now you keep
I got
out
nothing to do with this double cross.
Keep out of it,
you gotta believe me. He's wacky, this, and then he's got rocks in his head.
What changed your mind, Chief?
I thought this would be a small fight. No one would come. But everyone's here tonight, all my friends, relatives, my whole tribe. I can't take a dive in front of them. I just can't do it. I've got my pride.
Your pride? Well, you know, good
bum. Leo. You know, you get $1,000 bonus.
Keep
for this.
Your money. I've got my pride.
Torres knocked out every opponent so far. It's no disgrace to lose to him. It's good business. Think of the money you'll be throwing away.
Money don't last long with me. I gotta hold on to my pride.
All right, the chicken wire.
Boy, get going. It's holding things up.
Chicken wire.
You got a wired mouth out there. They'll tear the joint up.
You ever hear the chicken wire routine?
No. What is it?
Hey, take a little piece of chicken wire about this big. It fits right into your mouthpiece. You get a punch in the mouth, the blood flows like wine. They stop the fight. You get your money and you save your pride.
Bienvenue dans le monde merveilleux de la boxe. Vous savez, Marcel Cerdan, Mohamed Ali, Joe Frazier, mais derrière le clinquant, c'est pas reluisant, reluisant. Ça pue. Eddie Willis, Humphrey Bogart, journaliste à la ramasse, est recruté par Nick Benko, Rod Steiger, pour fabriquer la légende, le storytelling dont on parle tant aujourd'hui, d'un boxeur inconnu, argentin, Toro Moreno, interprété par Mike Lenn. Sur cet argument, Mark Robson réalise The Harder They Fall, plus dur sera la chute. Tout au long du film, on va voir Eddie Willis, conscient d'avoir vendu son âme au diable pour gagner de l'argent, tenter de garder un soupçon de dignité. Et le diable, c'est vraiment le diable. Nick Benko est prêt à tout pour gagner de l'argent. C'est la quintessence du sport marron, fait de trucages, de mensonges, de journalistes véreux. Ce taureau Moreno, géant de plus de 2 mètres de haut et de près de 140 kilos, est incapable de boxer. Eddie Willis le voit tout de suite et il comprend aussi que tous les combats qu'on va proposer à Toro Moreno seront truqués. Tous ces combats durent à peine un round. À chaque fois, les adversaires de Toro Moreno se couchent, trop heureux de gagner de l'argent à peu de frais. Le film de Mark Robson est puissant, aussi puissant qu'un boxeur poids lourd au combat. Il y a l'opposition de deux comédiens, Rod Steiger, convaincant dans son rôle de manager mafieux, et Humphrey Bogart, dont c'est le dernier rôle, il décédera quelques mois après la sortie du film, est impérial en journaliste usé, mais qui garde au fond de lui l'éthique du sport, le combat à la loyale. Il y a un scénario efficace dans lequel tout est au service de l'histoire. Rien n'est inutile. Il y a surtout les combats de boxe. Les deux derniers filmés caméra à l'épaule. On donne les coups et on les reçoit. Mark Robson nous oblige à comprendre par l'image ce qu'est la boxe. Il ne filme la foule qu'incidemment, alors que souvent dans les films de boxe, elle est un des protagonistes, artifice trop facile pour acheter le spectateur. Mark Robson filme la boxe dans toute sa violence et avec sa caméra, ce n'est plus du tout le noble art. C'est le sport des pauvres, des broyés du système qui n'ont plus que la vente de leur corps pour survivre. Il avait déjà filmé l'univers de la boxe dans Champion avec Kirk Douglas en 1949. Jack London, dans sa nouvelle Un steak, fantastique nouvelle, écrite en 1909, ne raconte rien d'autre.
Alors moi, je vais vous parler d'une scène où Art, un ami très très proche du personnage de Humphrey Bogart, veut lui montrer des extraits d'une interview qu'il a faite d'anciens boxeurs vedettes et qu'il souhaite passer dans une prochaine émission parce que, journaliste sportif, il a monté les échelons, on va dire, et il a maintenant une émission de télé. On comprend grâce au personnage de Bogart. Alors, on voit un extrait d'interview donc d'un ancien boxeur de 57 ans qui paraît complètement fracassé physiquement. Il a une dentition assez succincte et au niveau cérébral, on a l'impression qu'il y a des trous aussi. Hein, il y a des comme des bugs. Art est obligé de lui reposer la même question de façon différente. Quelquefois, il y a comme réponse, il n'y a rien qui se passe. C'est... ça retourne. Alors le gars en question n'a plus un sou, et après avoir gagné $500,000, il dort dans sa voiture, il a perdu sa femme, son fils est parti à la guerre, enfin c'est la totale. Ces gars-là qui ont produit une telle richesse pour les managers, en fait, ils sont incapables de faire autre chose derrière, et ils sont comme laissés comme déchets, quoi. Et donc Art essaie de montrer ça à Bogart, pour le convaincre de ne pas plonger dans ces magouilles-là, qu'il vaut mieux que ça moralement. Il y a une phrase qui dit « Les managers restent, mais les boxeurs ne durent pas ». Et c'est assez chouette parce qu'on a vraiment une espèce de mise en abîme réelle et fiction, c'est-à-dire qu'on passe d'un supposé reportage et on revient à la fiction derrière.
avec le cheminement de pensée des personnages. Cette scène particulièrement est chouette. Alors juste pour terminer, je voudrais juste, pour le plaisir, quand même, parce que bon, le rôle des femmes dans ce cinéma-là, et donc de ce fait, dans cette société de cette époque-là, c'est quand même toujours assez, comment dire, succulent. Alors on a deux types de femmes dans le film. Nous avons donc l'épouse dévouée, hein, qui n'a pas de vie à part son mari, toujours la taille comme ça svelte. Et la pute sans cervelle. Voilà, voilà. Alors, dans le rayon épouse, en tout cas femme de très bonne renommée, nous avons une dame qui a donc une fondation, sans doute pour des enfants handicapés. Et ils sont dans un bureau. Le personnage de Bogart essaie de la convaincre d'accepter un don de la part de son employeur qui a une réputation sulfureuse. Il y a l'avocat de la dame et le représentant de l'Église qui, lui, est la caution morale. Et donc, il y a les divers arguments qui s'entrechoquent et elle est juste, elle regarde. Et sur toute la scène, cette brave dame, elle a, j'allais dire, trois répliques, mais c'est trois fois la même. « I just want to do the right thing ». Mais non, c'est pas une bonne grosse cruche.
Alors, qu'est-ce que je peux rajouter à tout ce qui a été dit par mes collègues ? Eh bien, l'adaptation du roman éponyme de Butch Hulberg va prendre des allures d'enquête sur le monde de la boxe gangrenée par la pègre. On peut d'ailleurs noter qu'après avoir écrit sur la pègre et la boxe, Hulberg s'attaquera à la pègre et les dockers dans Sur les quais avec la même méthode scrupuleuse et journalistique. Le film d'Elia Kazan, sorti en 1954, offrira un rôle de mafieux à un certain Rod Steiger. Ici, on va suivre l'évolution d'un champion entre guillemets de boxe créé de toutes pièces pour affronter et perdre un ultime combat contre le véritable champion du monde de toute catégorie sans que lui-même ne soit au courant. Le but ? Miser à la fin une forte somme contre son poulain et empocher le pactole. Toro Moreno, carrure monstrueuse, est donc le boxeur argentin déniché par Benko, le roi du chaos. Seulement, s'il est bâti comme un taureau, il est tendre comme une laitue et ne sait absolument pas boxer. Eddie, Humphrey Bogart, accepte d'écrire sa légende et devient l'associé de Benko, qui va lui proposer des combats truqués en Californie avant de le ramener à New York dans un bus à son effigie pour le grand combat. Mais plus que l'ultime affrontement entre les deux champions, ce qui m'a interpellé, c'est bien le combat entre Humphrey Bogart, en passe de perdre le sien contre un cancer de l'œsophage, Luc l'a déjà dit, il en est à son dernier round, et Rod Steiger, combat qui atteint des sommets arbitré par Jane Sterling, qui vient d'interpréter Julia dans le 1984 de Michael Anderson, femme de Bogie dans le film. Les répliques fusent tout au long du film. Si Bogart semble amer au début après 17 ans de journalisme sans avoir pu amasser le moindre argent, il le sera plus encore après avoir véritablement compris comment les promoteurs s'enrichissent sur le dos des boxeurs, rejoignant ainsi l'un des thèmes de « Ce que cela coûte » de Wilfried Charles Haynes, mais aussi de « Nous avons gagné ce soir » de Robert Wise. Autant de films et de romans qui jalonnent les années 1950 et qui montrent l'importance de la boxe dans la société américaine et donc qui insistent sur la mainmise de la mafia. C'est un film dur avec une fin qui offre une échappatoire lumineuse. Les amis, quel est votre verdict ?
Ben oui, Linda et Julien, il n'y a pas photo. Plus dur sera la chute, c'est un bonheur de cinéma. Un scénario bien construit, des comédiens complètement crédibles, un réalisateur qui a un vrai point de vue, 1h48 de bonheur.
Alors moi, je suis un petit peu mitigée. Je trouve que ça joue bien, ça c'est clair. Même si la mise en scène est un petit peu datée, parfois un peu marquée, on va dire. Mais il y a quand même un vrai rythme, ça emmène, il y a quelque chose. Ce qui est dommage, je trouve, c'est la longueur quand même, parce que c'est vrai que le message, est, voilà, on comprend, on voit venir le truc, au bout d'un moment, ça aurait pu être moins long que ça. Mais c'est un bon moment, hein, on ne perd pas son temps.
Vous êtes sur le 101.5 FM, c'est Calibre 58, l'émission qui vous sort du noir, et c'est sur Radio G. Alors, après avoir cassé du boxeur, nous allons maintenant revenir à un autre programme avec la chronique de Luc, on n'achève pas les classiques. Il y a de l'extermination dans l'air, je ne vous le cache pas.
Ah, Julien, tu veux du court, du sec et du captivant. Je t'en ai trouvé du court, du sec et du captivant. Et je ne suis pas remonté loin dans le temps. Enfin, pas loin, en l'an 1975, 45 ans. Ça te va ? Et j'ai fait dans le français cette fois. C'est vrai que les Américains ont été maîtres en la matière, mais dans les années 70, a émergé en France une génération de jeunes auteurs qui a mis un coup de pied dans la fourmilière. Fini le hardboil, fini la série noire à papa, fini les enquêteurs héros, non. C'est la société qui entre de plein pied dans le roman noir et ça va déménager. Le roman que j'ai choisi, c'est « Tueur de flics » de Ronald Moreau, nom de plume Frédéric Fajardi. Son premier roman, écrit en 1975 et seulement publié en 1979 aux éditions Fauteuil dans la collection Sanguine. « Tueur de flics », ça commence fort. C'est presque inimaginable, une prise d'otage. La créature qui tenait le fusil, deux bras et deux jambes nus et poilus, ainsi qu'une tête entièrement rasée, émergeait d'une énorme boîte de carton où s'étalait merveilleusement imitée la marque Peck. Et la négociation va commencer comme ça. L'homme paquet se présente. « Bonjour, je suis Peck Machine. » « Enchanté, répondis-je, pris de court. » J'ajoutais, « Eh bien, j'écoute vos exigences, monsieur Peck Machine. Je veux entrer dans la machine à laver comme le petit bonhomme à la télé. Rien ne s'y oppose, monsieur Peck Machine, mais votre fusil va vous gêner. Ça, c'est juste l'amuse-gueule. Même si Fajardi, dans ce premier chapitre, dessine tout ce qui va être le fond de ses romans noirs. Cela lui permet d'installer et de présenter, en peu de mots, le commissaire Padovani. À partir du chapitre 2, ça va se gâter. Et on va entrer dans le dur. Un triumvirat de bandits enlève et dépaisse des flics. L'un déguisé en clown Auguste, l'autre en bibanum et le troisième en clown blanc. Le premier à y passer est le brigadier-chef Jean-Claude Gallet, que les tueurs, après l'avoir découpé, vont faire éclater avec du gaz. Padovani va se lier avec Dugommier, une espèce d'anarchiste qu'il décrit comme ça. Le témoin défiait toute description. Là, Marcel Proust en faisait 4 volumes. C'était ce mec, un compromis entre les mutins du cuirassé Potemkin et les clodos débectants de Los Olvidados, une sorte de monument baroque qui s'agitait devant la lys impassible. Benghazi, le collègue et l'ami, va lui aussi être enlevé par les bandits. Dans ce roman, on retrouve des R16. La police a des Simca 1100, c'était les années 70. Dès le chapitre 4, Fajardi affine rapidement, en quelques traits, ce qui deviendra son héros récurrent, le commissaire Padovani, fils de flic et pris en charge par son oncle, flic aussi, commissaire principal. Fajardi, c'est de l'écriture brute, sans fioritures. On sent que mai 68 est passé par là, avec tout son cortège de groupuscules. Marxiste, léniniste, maoïste, trotskiste, communiste, anarchiste. Il en connaît les arcanes et son héros Padovani n'en est certainement pas très loin. C'est le petit, l'obscur qui l'intéresse, l'opprimé. Même les tueurs de flics, il les recontextualise, comme on dit aujourd'hui, pas pour les excuser, mais pour montrer encore et encore la violence de la société et surtout rappeler sans cesse qu'ils l'exercent, cette violence. Le capitalisme, les policiers corrompus, les lâches. Fajardi, c'est l'enfant d'une famille dessinée par Jean-Patrick Manchette. La position du tireur couché. On y retrouve des noms fameux qui vont émerger dans les années 80. Thierry Jonquet, La Belle et la Bête, Didier Deninx, mort au premier tour, Mac Villard, Légitime démence, Jean-Bernard Pouilly, Nous avons brûlé une sainte. On a appelé ce courant le néo-polar. Il a commencé avec la contestation de l'autorité et de la société de consommation, puis a continué dans une veine sociale amère où dominent les banlieues, les usines, le chômage et la vie qui en découle. Il n'en reste pas moins que Tueur de flics, c'est réjouissant à lire ou à relire. Cela réveille en nous ces révoltes adolescentes, toutes de radicalité, de pureté, d'inconditionnalité. Les Espagnols de 36 avaient un slogan, « No pasarán ». Pour la jeunesse des années 70, c'était « No surrender ». Hélas, dans les années 80, c'est devenu « No future ». Ça s'appelle « Tueur de flic ». C'est de Frédéric Fajardi et c'est publié aux éditions La Table Ronde dans la collection « La Petite Vermillon ».
Grand merci à toi, Luc, pour cette chronique et pour avoir rafraîchi notre mémoire avec ce Frédéric H. Fajardi qui gagne à être lu. On écoute maintenant Tom Waits, Waltzing Matilda.
Sing Matilda, oh. jailer and the old man in wheelchairs know that Matilda's the defendant. She killed about 100 and she follows wherever you may go. Old Saint Matilda. It's a battered old suitcase to a hotel someplace and a wound that will never heal. No prima donna, the perfume is on an old shirt that is stained with blood and whiskey. Sweepers, the night watchmen, flame keepers, and good night, Matilda.
Maintenant de nos brèves en série. Une nouvelle qui va faire plaisir à Linda. L'auteur Pierre Lemaître, prix Goncourt pour Au revoir là-haut, a d'abord connu le succès avec des romans policiers. Il fait paraître chez Plon son dictionnaire amoureux du polar. 800 pages subjectives d'un amateur du genre qui préfère l'universalisme à l'universitarisme. Quand on connaît les combats de l'auteur, on imagine que ce qu'il a lu, visionné ou même écouté l'a façonné. De quoi trouver des pistes culturelles, sociales, sociétales, noires, appréciables. Le livre est chez Plon et il coûte 27 euros. C'est un roman dont on cause beaucoup et qui, s'il n'a pas de chance, n'aura aucun des prix littéraires pour lequel il est en compétition. Et pourtant, il est de tous les prix ou presque. Et c'est loin d'être une anomalie. L'anomalie, c'est son titre d'Hervé Letellier dans La Blanche chez Gallimard, et pourtant à la fois un roman d'anticipation et un roman noir sur fond de secrets révélés. L'auteur s'était fait connaître par son appétence pour l'Oulipo. On se rappelle ses ouvrages au castor astral comme Le Truculent, Les Amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable et Le Jouissif, Joconde sur votre indulgence. Ici, il emprunte pour une rare fois le roman. C'est chez Gallimard au prix de 20 euros. Les adeptes de mauvais genre au cinéma, qui aiment plus particulièrement les contrefaçons pas forcément chinoises, pourront piocher dans « C'est presque pareil », l'anthologie que Claude Gaillard consacre aux films qui détournent les succès de films cultes. Outre l'agent 007,5, on y débusquera un Superman turc et un autre espagnol, ainsi qu'une Catwoman mexicaine. L'ouvrage, particulièrement bien documenté et illustré, est édité chez Omake Books, et donne des pistes alléchantes pour une soirée cinéma déjantée entre amis éthylés et stylés. Et tout ça à prix modeste, 19,90€. On reste dans le cinéma et on se projette dans le film policier français avec l'ouvrage hommage que lui rend Jean Olé Laprune chez Hugo Images. L'essayiste propose 100 films de 100 réalisateurs différents. Dans une maquette agréable qui met en avant la photographie, on suit chronologiquement l'épopée d'un genre avec des encarts intelligents. Si l'auteur choisit uniquement un film par réalisateur qu'il met en avant, il n'en propose pas moins d'aller piocher dans une filmographie resserrée d'autres films. L'ouvrage s'appelle « Le cinéma policier français » et parfois, Jean Olé Laprune joue sur les termes. Il nous parle de films étrangers tournés en France. Il propose des films apparentés au genre comme « La cité de la peur » mais écarte le grand blond et ses satanés gendarmes. Il fait les choix mais c'est plutôt bien fait. On vous le recommande évidemment. C'est chez Hugo Images pour 24,95€. Enfin, la maison d'édition Sonore et Jeunesse 3 Petits Points vous propose de participer au lancement de l'ouvrage La Chanson de Martin, un livre audio qui ravira les plus jeunes et qui nous parle de racisme entre le Paris d'aujourd'hui et le New York des années 1930. L'ouvrage, déjà enregistré, est bilingue dans une ambiance folk. Vous devez aller faire un tour sur le site participatif Kiss Kiss Bank Bank et taper La Chanson de Martin dans le moteur de recherche pour y accéder. N'hésitez pas, la curiosité n'est assurément pas un vilain défaut. Nous, on remercie José Rodríguez dos Santos pour avoir répondu avec patience à quelques questions pas trop saugrenues. Je vous rappelle le titre de son roman Immortel. C'est chez Hervé Chopin. Pour retrouver le sommaire de l'émission Calibre 58, deux adresses, le site de Radio G et sa page dédiée à notre émission et la page Facebook Calibre 58. On vous dit à dans 15 jours. D'ici là, cultivez-vous bien. Salut Luc, salut Linda et encore merci.
C'est déjà fini. Bon, alors, au revoir les amis.
Au revoir Julien, au revoir à tous et puis à bientôt pour de vrai, j'espère. I'm gonna make you mine.